I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hello! Un rapide message avant de vous faire écouter l'épisode du jour pour vous dire que mon livre est disponible en précommande. Ce livre, c'est vraiment la somme de tout ce que j'aurais eu besoin de lire ou d'entendre lorsque j'étais enceinte. Qu'on m'explique pourquoi tant de personnes sont traumatisées par leur accouchement, pourquoi ce n'est pas normal et qu'est-ce que je pouvais faire pour y échapper. Qu'on m'explique aussi tous ces chiffres, ces taux élevés de césarienne, les réels risques d'une péridurale ou les justifications de tel ou tel acte pour moi. Qu'on me donne aussi à voir d'autres modes de pensée pour m'aider à avancer comme je l'entendais et des clés pour me préparer réellement à mon accouchement. Et comme j'ai pas trouvé de livre comme ça quand j'étais moi-même enceinte, eh ben j'ai décidé de l'écrire. Il s'appelle « Retrouver le pouvoir d'enfanter » et il est génial. Il coûte 9,90€, je vous mets un lien pour le précommander dans la description de cet épisode. Et vous savez pourquoi les précommandes sont si importantes? Parce que ça envoie un message fort aux libraires et aux grandes enseignes comme la Fnac, que ce type de sujet est important, qu'il faut qu'ils commandent de nombreux exemplaires de ce livre pour qu'il soit visible en rayon, et lui faire une place de choix. Alors voilà, précommandez-le. Il sortira ensuite le 21 février, encore un tout petit peu de patience. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un super épisode.
Ouais, mais moi, je dis toujours aux parents, non, mais l'accouchement, c'est juste le début, hein, parce qu'ils pensent que c'est la fin du truc.
L'accouchement, en fait, c'est facile.
Mais c'est trop simple.
Et après, il faut tenir sur la durée. Bon, et moi, du coup, on va enchaîner. Je suis hyper contente qu'on puisse se parler. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, peut-être, est-ce que tu veux m'expliquer un peu ce que tu fais? Ça a été quoi un peu ton cheminement dans les questions de parentalité? Est-ce que tu as toujours voulu des enfants ou pas, par exemple? Et sur la question de l'accouchement, est-ce que tu avais peur de l'accouchement avant? Enfin, c'était quoi ton cheminement sur tout ça?
Alors, aujourd'hui, depuis déjà 2 ans, j'accompagne les femmes et aussi les couples, hein, parce que c'est un projet de couple par rapport à une envie, au départ, souvent, d'accoucher naturellement. Et on va creuser plus loin dans mon approche, parce que j'ai été souvent connue pour mes coups de gueule pendant la période Covid sur tout ce qui s'est passé. Moi, mon travail au départ, c'est de relier les points d'un puzzle. Je suis passionnée par la psychologie humaine, la psychologie des masses aussi, des foules. Alors là, on était servis pendant quelques années. Et puis, en fait, pour moi, la naissance, c'est un défi. Donc, tout l'approche de comment, dans sa vie, on arrive à se libérer de ses peurs, de ces conditionnements. Hein. Moi, je travaille aussi beaucoup, je fais pas mal de vidéos assez clash sur l'école, finalement. Se poser des questions sur ce qui nous semble tellement normal dans notre vie, absolument pas remettable en question. Et moi, ce que j'aime, c'est aller justement ouvrir ces portes-là et se poser des questions par rapport à tout ce qu'on admet comme étant « mais tout le monde sait ça, bien évidemment, Roxane, tout le monde sait ça ». Alors moi, dès que tout le monde sait ça, c'est là où j'aime travailler. Et la naissance, alors là, on est dans la cible, parce que si tu veux attaquer une civilisation, t'attaques la naissance, t'attaques la façon dont les êtres humains arrivent sur Terre. Et si t'arrives un petit peu à flinguer le moment, à couper les femmes de leur puissance, à rendre les hommes complètement dégénérés au bout d'une salle, la queue entre les jambes, hein, parce que c'est vraiment le cas de le dire, donc impuissants eux aussi. Et donc un bébé tout seul qui choisit pas son heure de naissance parce qu'il y a une vague de déclenchement monumental, bah, du coup, tu te retrouves avec une civilisation qui est complètement coupée de qui elle est, là, plus aucune idée de qui elle est vraiment. Et moi, mon accompagnement, il est vraiment global dans ce sens-là, c'est-à-dire que la naissance, je l'approche comme étant un défi parce que tu dois traverser la peur de mourir. Toi, tu sais, tu es passé par là aussi. Et une fois que tu as passé ça et que tu l'as traversé, eh bien, tu le transmutes et il y a la mort de la peur après. Du coup, ça s'inverse, ça se remet dans le bon sens. Et donc, moi, mon chemin, j'ai 3 enfants et en 2013, j'ai accouché de ma première fille. Et à l'époque, j'étais passionnée, j'ai beaucoup investigué sur ce qu'on faisait dans les injections infantiles. Et à ce moment-là, j'avais pas encore compris que la naissance était le point culminant de cette attaque contre la civilisation. Moi, j'étudiais beaucoup la médecine, etc. Évidemment, la manipulation en psychologie des masses. Et j'ai accouché de ma fille à la maternité en me disant bah, les femmes accouchent depuis l'histoire du monde, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Et ça a été une série de gestes qui ont induit des problèmes, qui se sont finalement finis en avalanche, alors qu'au départ, il n'y avait rien, tout allait très bien, comme l'immense majorité des femmes. Et j'ai vécu ce que j'appelle l'effet toboggan dans mes contenus. J'ai écrit un livre aussi là-dessus 8 ans plus tard. Et sur le moment, je m'étais dit, heureusement que j'étais à l'hôpital, sinon je serais morte et mon bébé aussi. Comme tant de femmes, voilà, c'est toujours la même rengaine. À la fin, ça devient un mantra. 8 ans plus tard, je tombe enceinte de ma seconde fille. Et là, je me dis, bon, maintenant, je vais vraiment me mettre à fond à étudier ce sujet. Pas uniquement en termes de physiologie, mais en termes d'effet toboggan, en termes d'effet iatrogène. C'est-à-dire, si on me fait ça, qu'est-ce qui va se passer dans les statistiques? Moi, j'adore les faits. Je suis plus dans la notion de bien et de mal. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime les choses factuelles. Après, on fait ses choix, mais pour faire des choix, il faut savoir quelles peuvent être nos options. Et
Bien
du
sûr.
coup, je me suis retrouvée à me rendre compte que c'était beaucoup plus sécure d'accoucher à la maison. C'est pour ça que j'ai accouché chez moi. De ma seconde fille, et quand j'ai eu mon fils, le petit dernier, alors là, ça a été encore sur un autre plan parce que bon, j'étais seule quasiment jusqu'à la délivrance. Et Pascal s'occupait de notre fille, la deuxième, qui elle avait une fracture du tibia pendant que j'accouchais. Alors ça a été sport, hein. Et en fait, je me suis retrouvée seule dans ma chambre, entre la chambre et la salle de bain, seule à pouvoir crier, à pouvoir être comme une bête sauvage. C'était extraordinaire, ça a duré 1 heure et demie. Et en fait, je savais exactement. Alors déjà, je savais que j'étais capable, ça change tout. Et là, j'ai pu aller vraiment explorer des mondes complètement fous. Et mon fils, je dis toujours, est venu avec un message. Il est venu avec le message dans les mains que quand tu laisses faire les choses, tu peux te connecter avec un certain type d'onde cérébrale à la femme sage. Et donc, tu passes de l'énergie de la sage-femme à la femme sage. Et c'est tout cet univers qu'on explore dans mon accompagnement, parce que maintenant, Pascal m'a rejoint. Il s'est rendu compte que les pères sont aussi dans un défi extraordinaire s'ils peuvent traverser ce moment-là. Et donc, voilà, je fais une présentation un petit peu longue, mais c'est, si tu veux. C'est toute une façon de vivre hein, au final, tu vois. C'est pas juste. Moi, je dis toujours aux
Bien sûr.
gens, si vous voulez accoucher sans péridurale, venez pas vers moi, parce que ça va pas être intéressant. Si c'est voilà, moi, c'est vraiment tout un lifestyle qui est derrière, tu vois.
Et c'est vrai qu'en plus, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper délicat parce que moi, je m'adresse aussi aux personnes qui veulent accoucher sans péridurale et qui veulent aller à l'hôpital et tout, mais on se confronte quand même à un mur, c'est-à-dire que moi, je sais, quand les personnes, elles veulent accoucher à l'hôpital, qu'elles se mettent en danger et que, oui, ne pas vouloir la péridurale, d'accord, mais en fait, aller dans la structure, c'est se mettre aux mains des protocoles et du personnel soignant et qui est très bienveillant, ce n'est pas la question. Enfin, la plupart du temps, être très bienveillant, ce n'est pas la question. Mais voilà, si la dilatation ne se passe pas comme il voudrait, tu vas forcément avoir augmentation du travail, ocytocine de synthèse. Ils vont forcément te faire peur en te disant que X ou que Y ou que machin. Et donc oui, vouloir accoucher sans péridurale, c'est une chose, mais ça ne prévaut pas des problématiques qui peuvent découler quand même de ton accouchement. Tu vas dans un environnement dans lequel tu n'as pas de confort, d'intimité, tu n'as pas le sentiment de sécurité comme tu peux avoir chez toi. Tu es observé, ça c'est quand même quelque chose dont on parle un peu, mais quand même pas suffisamment. Être observé, oui, tu te comportes différemment en fait et tu vis les choses différemment. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper difficile. Moi, j'essaye de dire aux gens oui, sans péridurale, d'accord. Et j'essaie de ne pas dire il faut que tout le monde accouche seul chez soi, même si en vérité, il faudrait que tout le monde accouche seul chez soi. Ou alors qu'il existe d'autres types de sages-femmes. Mais bon, pour l'instant, j'en connais pas trop, quoi. Des personnes qui sont capables de vraiment garder la distance, en fait, et de juste dire, voilà, je garde l'espace, tout va bien, t'inquiète. Mais donc, oui, ce que je veux dire, tout ça pour dire que je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas juste vouloir accoucher sans péridurale. C'est comprendre beaucoup plus que ça, en fait. Et oui, c'est vouloir reprendre le pouvoir sur sa vie, sur son corps. Mais est-ce que, en même temps, est-ce que c'est pas d'abord l'accouchement qui est la clé d'entrée à toutes ces compréhensions-là? Toi, tu penses qu'on peut comprendre pendant la grossesse?
En fait, c'est juste une question de vision et de ce qu'on veut faire. Encore une fois, il y a plusieurs façons de voir les choses, tu vois. Aujourd'hui, une femme qui veut juste vivre un accouchement sans péridurale, a priori, elle peut trouver pas mal de ressources partout. Puis, alors, elle aura besoin de temps quand même pour trier ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a quand même un océan de choses. Moi, des fois, j'ai la bouche ouverte, je me dis « waouh ». Moi, j'ai des semaines entières de cours sur ben justement toutes les études et toutes les aberrations sur cette façon de pathologiser quelque chose qui va bien. Maintenant, quand la personne, elle a une vision de sa vie où elle se dit, maintenant, il y a un truc qui cloche, tu vois, il y a un truc qui va pas dans ma vie, je me lève le matin, il y a un fossé entre qui je parais être et qui je suis. Et donc, cette démarche de se sentir libre, mais vraiment libre, pas avec une pancarte où c'est écrit liberté dans la rue le samedi parce qu'on va manifester en demandant à l'autorité enfin d'être libre. Vraiment, la personne qui veut se réapproprier sa vie, elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'enfanter de cette façon-là. Et donc, il va falloir qu'elle se prépare parce que, comme je le dis toujours, tu peux accoucher partout de façon libre et souveraine, mais c'est beaucoup plus simple à la maison parce que tu vas pas avoir toute une série de choses qui vont venir te mettre des bâtons dans les roues sur ce moment-là que tu as à transcender. Tu vois? Pour moi, la naissance, c'est vraiment là où tu face the mirror. Tu peux pas te raconter des histoires. Ok? Des gens qui se racontent des histoires, il y en a plein. On est 8 milliards. La plupart des gens, ils prétendent vouloir certaines choses, mais quand maintenant c'est le moment, okay, d'y aller, souvent il n'y a plus personne. Parce que derrière, les gens, ils sont pas prêts, ils mettent pas, ils n'investissent pas dans ce moment-là. Donc ça, je te parle de la majorité. Mais il y en a, il y a beaucoup de plus en plus de personnes maintenant qui comprennent que si elles veulent maintenant se réapproprier leur vie d'une façon générale, l'accouchement fait partie de cette de ce déclic, de ce départ, hein, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas la fin, l'accouchement. Souvent les gens se disent, oui, mais l'accouchement, c'est la fin de la grossesse. L'accouchement, c'est le début, c'est le tout début d'une nouvelle relation, d'une nouvelle identité aussi, mais c'est surtout à partir de là que tu vas voir, dans ce moment-là, si tu as vraiment bien fait ton taf avant, c'est-à-dire est-ce que tu as été honnête avec toi-même, ou si tu as continué de te raconter des histoires. Ou quand je dis se raconter des histoires, c'est que finalement, la seule peur qu'on a à traverser dans notre vie, c'est la peur de mourir. Tout est basé là-dessus. Dans notre vie, si tu regardes quoi, les gens se lèvent le matin, font des jobs qu'ils n'aiment pas, continuent de, tu vois, d'avoir tout le temps cette roue du hamster. Tout est le levier, c'est de la peur. Peur de perdre sa maison, peur de pas avoir assez d'argent pour se payer à manger. Mais si tu vas toujours au bout du bout du bout du bout, c'est toujours la peur de mourir. J'ai rien inventé, hein. L'humain est comme ça. Et donc, pour moi, il y a deux façons. Soit ce sont des personnes qui ont déjà capté ça et qui se disent, OK, j'ai capté ça, mais maintenant je veux le vibrer dans mes cellules, tu vois. Et c'est des projets de couple. Moi, j'accompagne des couples, ils ont même pas encore d'enfants, hein. Ils commencent à se dire, on veut un enfant peut-être dans quelques mois, mais on veut déjà consciemment changer des trucs, tu vois. Ou alors, ce sont des personnes qui ont déjà quelques indices dans leur vie. C'est pas forcément très défini, mais elles savent qu'il y a quelque chose à aller capter à ce moment-là. Et ça peut être un big bang monumental. Quoi qu'il en soit, une femme, un homme qui accueillent leur enfant d'une façon libre et souveraine, ceux-là, ils sont dangereux pour la société.
Bien
Et c'est
sûr.
pour ça que ceux-là, il faut les éliminer coûte que coûte, parce que ceux-là, ils vont pas aller demander ou revendiquer quoi que ce soit. Ils font, et c'est tout, ils sortent du jeu, c'est terminé, ils jouent plus dans tout ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule façon, hein, d'arriver à ça. Mais par contre, de plus en plus de personnes ont des trucs qui clignotent sur leur tableau de bord. Ils disent, waouh, il y a un truc qui cloche. Et ils savent, ils sentent bien que la naissance, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans tout ça. Et encore une fois, l'écrasante majorité des gens sont dans un cas de figure où ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'actes médicaux parce que tout va bien. Tout va très bien. C'est cela. Hein, moi, je m'adresse à cela. Les cas pathologiques, c'est pas mon rayon du tout. Et il y a tout ce qu'il faut au niveau chirurgical pour ça.
Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Après, enfin, tu vois, je prends toujours mon cas à moi. Moi, j'ai compris les choses parce que j'ai eu mon accouchement traumatique à l'hôpital, mon premier. Et sans lui, j'aurais pas compris toute cette mascarade, la société, ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on veut, les directives qu'on veut qu'on suive. Donc, tu vois, tu parlais de l'école. Moi, j'ai aussi un avis pas très positif sur l'école, pour le dire gentiment, sur l'accouchement, sur le système médical, sur, enfin, tout ce que tu veux. Moi, j'avais pas compris. J'ai dû subir ça pour comprendre. Et c'est une conversation que j'ai beaucoup avec les personnes qui travaillent dans le milieu des naissances libres, c'est de se dire, mais comment on fait en fait pour que... Parce que oui, il y a des personnes qui sont sensibles à ça et qui, même sans avoir d'enfant, se disent, moi, je veux un enfant naturellement, enfin, sans personne, je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas et tout, mais ça, c'est un infime pourcentage des personnes et j'ai quand même l'impression que, enfin, c'est même pas du tout une impression, ce sont les statistiques qui parlent, les gens doivent aller se faire traumatiser pour après, donc soit se dire, bah oui, c'est comme ça, l'accouchement, c'est normal, soit se dire, mince, il y a un truc, et donc moi, ça a été mon cas, il y a un truc qui va vraiment pas, je plonge dans la question. Et même si pendant ma première grossesse, j'avais compris tout ça, je voulais de la physiologie, je voulais pas de péridurale, j'ai quand même été à l'hôpital en me disant, si jamais il doit se passer quelque chose, je serai en sécurité. Et du trauma, j'ai compris, en fait, non, d'accord, ok, on va faire les choses autrement et ça va être bien mieux. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a un infime pourcentage des gens qui sont capables d'avoir ces réflexions-là. De même, parce que bah, c'est leur éducation, c'est l'univers dans lequel ils baignent, leur entourage, et puis simplement qui ils sont. Mais t'en as tellement d'autres qui vont devoir être traumatisés, et tant pis. Comment on fait, tu vois, pour prévenir? Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à prévenir les traumatismes, en fait. Et que les gens, ils accouchent chez eux, et bah, voilà, tu vois.
Ouais, le truc, c'est que, en fait, la personne qui va, qui aujourd'hui, c'est-à-dire on est en 2024 maintenant, la personne, elle a quand même relativement du choix. Si tu veux maintenant aller préparer une naissance, comme tu disais, naturelle, parce que c'est souvent comme ça, hein, que ça commence, les personnes mangent bio, bon, elles ont certains styles de vie comme ça qui restent cohérents par rapport à un projet de naissance, sans avoir compris l'enjeu, l'explosion de puissance, hein. Il n'y a pas besoin. Et la majorité des gens ne savent même pas ça. Et, tu vois, quand je parlais du message, mon troisième enfant, même moi, j'étais surprise. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi incroyable. Enfin, ça a été vraiment un truc de ouf. Hein. Alors, c'est vrai que j'en parle pas forcément sur les réseaux sociaux comme ça. On en parle beaucoup dans les ateliers que je donne pour les gens que j'accompagne, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, même extrêmement puissant. Mais voilà. Tu peux quand même avoir une idée. Et selon l'accompagnement dans lequel tu tombes, effectivement, là, c'est tout l'enjeu d'avoir une perception de la réalité différente. Maintenant, l'être humain, faut quand même le constater, Roxane. Si tu restes comme un chat qui ronronne sur le canapé au coin de la cheminée, c'est peu probable que tu évolues dans ta vie. L'humain, il a toujours eu besoin de la souffrance pour évoluer. Et c'est le rôle de la souffrance. C'est là, quand tu vois les personnes les plus évoluées dans leur façon de comprendre le monde dans lequel elles évoluent, ou surtout, comme je dis toujours, de réduire l'écart entre qui tu es et qui tu parais être, cette authenticité-là, bah, moi, les gens que je connais qui assument ça et qui sont détachés finalement de tout le reste, de tous ces jeux d'humains, c'est des gens qui s'en sont pris plein la gueule pendant pratiquement toute leur vie, et qui ont réussi à tirer des conclusions de ça. Moi aussi, j'étais traumatisée par mon premier enfantement et ça m'a permis de comprendre. Tu sais, c'est comme les enfants aussi. Quand tu vois les enfants qui sont pourri gâtés, qui ont toujours tout, 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 qui n'ont jamais eu une seule frustration de leur vie, est-ce qu'ils sont capables d'être heureux, de jeter trois cailloux en l'air et de jouer avec ça? Tu vois? C'est à un moment donné, malheureusement, l'humain est comme ça. Il a aussi besoin de se prendre des baffes pour comprendre. Et c'est tout l'enjeu d'être plutôt là à titre d'information, parce que chacun a son rythme. Il y a des gens qui ont besoin de s'en prendre une de baffe, ça suffit. Toi, apparemment, ça t'a suffi, tu vois, t'as vite capté. Puis il y en a d'autres, ils s'en prennent toute leur vie. Et puis, comme je dis toujours, si tu comprends pas, la baffe, elle va venir de l'autre côté, et puis l'univers sera gentil, parce qu'il va chaque fois te donner une opportunité pour comprendre. Alors les gens disent, oui, j'ai des problèmes, mais c'est pas des problèmes. C'est juste à chaque fois une opportunité. Et puis comme l'univers est intelligent, il se dit, bon, bah, elle n'a pas compris cette fois, on va aller lui dire un peu plus fort parce qu'elle n'entend pas. Alors, du coup, à chaque fois, puis à la fin, ça finit dans d'autres trucs, tu vois. Moi, dans ma façon de voir les choses, tout est lié sur le même plateau. Donc, l'accouchement, la façon dont une femme va donner naissance à elle-même, okay?
Bien sûr.
C'est la façon dont elle va donner naissance à son enfant. Et là, elle a une opportunité. Et ça va lui servir pour tout le reste de sa vie. Ce n'est pas uniquement
Ah non,
par
c'est clair.
rapport à ce
Bien sûr,
moment-là.
bien sûr.
Et donc, pour certaines personnes, ça va passer par, OK, on va te mettre ça comme défi dans ta vie, parce que probablement, tu es capable d'aller encore plus loin que ce que tu pensais. Tu vois. Et ce n'est pas rien de donner naissance. C'est vraiment pas rien. C'est un moment, ben voilà, toi, tu es aussi passé par là. C'est intense, hein. C'est très intense, ça se prépare tout ça.
Ouais. Bon, après, moi, j'avoue que j'ai un schéma particulier parce que donc mon premier accouchement a été donc un enfer vraiment. C'était vraiment horrible en milieu hospitalier et mon deuxième enfantement où j'étais donc seule chez moi et j'ai une doula, une birthkeeper qui est arrivée un quart d'heure avant la naissance de ma fille, de ma deuxième fille. Mais sinon, j'étais seule et c'est un accouchement qui a duré 3 heures sans aucune douleur. Enfin. Moi, j'ai vécu un enfantement comme ça, donc c'est vrai que pour moi, presque, c'est pas forcément facile, mais c'est enfin, c'est forcément un truc fou, mais j'ai tendance à me dire que ça peut être cool, tu vois.
Qu'est-ce qui peut être cool?
L'accouchement, c'est pas forcément un truc qui te bute de douleur, et même si bien sûr que ça peut l'être, et je ne nie pas que ça peut l'être parce que je l'ai vécu pour ma première, mais c'est vrai que j'associe beaucoup ce que j'ai vécu pour ma première avec le contexte dans lequel j'étais. Mais voilà, je suis quand même capable. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui enfantent librement et qui sont hyper libérées dans leur tête et tout, et qui ont quand même des enfantements hyper douloureux. Mais bon, j'aimerais bien que tu nous racontes ton dernier accouchement où donc tu étais libre, tu étais seule chez toi, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste me redire, donc pour ta deuxième, tu avais une sage-femme chez toi ou c'était déjà un enfantement libre?
Non, alors pour ma deuxième, j'avais une sage-femme qui était la même qui m'avait fait le suivi global pour mon troisième enfant.
D'accord.
Et donc on avait prévu d'accoucher à la maison avec une piscine qu'elle nous avait prêtée. C'était très sympa. Il y avait Pascal qui était là. Et puis ça a été une naissance vraiment magique. Et c'est après là, pendant ce postpartum-là, que j'ai écrit mon livre pour parler de mes deux. En fait, c'est un livre où tu as le fil de mes deux. Accouchements, et c'est là aussi où je développe l'histoire de l'effet toboggan, etc. Pour Edison, donc mon fils, le troisième, j'avais un suivi global avec la même sage-femme et j'avais envie d'accoucher seule, mais j'ai gardé ça pour moi parce que je sentais bien que ça stressait un petit peu Pascal. Et ma sage-femme m'avait dit n'accouche pas le 16 mars. Le 16, le 15, 16 ou le 16, 17, je sais pas, il y avait 2 jours, elle m'avait dit n'accouche pas là parce que je suis en formation un peu plus loin, enfin beaucoup plus loin, et voilà. Et bah, évidemment, mon fils est arrivé là.
Évidemment.
Mais oui, et en même temps, enfin, franchement, j'étais tellement sereine par rapport à ça. Et j'avais une totale confiance en moi, j'avais une totale confiance en mon enfant, et puis je savais très bien que. Les catastrophes n'arrivent pas en claquant des doigts. Je maîtrisais très bien le sujet, donc j'étais très relaxe par rapport à ça et très responsable aussi. Tu sais, à un moment donné, souvent les gens, ils nous voient comme des espèces de sorcières sur des balais, irresponsables. Mais en fait,
Complètement.
vous vous en foutez complètement de vos enfants. Évidemment, quand les gens ignorent tout ça, je peux comprendre qu'ils se disent « Oh là là, mais elles sont complètement folles, celles-là ». Comme celui de le grand Manitou de Necker qui dit qu'on veut accoucher dans le foin quand on va accoucher chez soi. Bon, je lui avais fait une petite réponse en vidéo, ça m'avait fait du bien. Je m'étais un peu défoulée, mais chaque fois, je repense à lui parce que c'est tristissime hein, d'en être encore là, mais bon, c'est un autre monde. Alors, oui, Edison, qu'est-ce que tu aimerais savoir par rapport à sa naissance?
Alors, j'aimerais bien que tu nous la racontes parce que dans ce podcast, dans l'envers du décor, j'aime bien recueillir des récits d'enfantement différents de ceux dont on a l'habitude, donc hors du système. Et voilà, et simplement pour que des personnes qui se projetteraient dans ce type d'expérience puissent écouter quelqu'un raconter son vécu. Donc, tu vois,
Ok.
comment ça s'est lancé. Peut-être effectivement, je trouve que c'est intéressant quand tu dis que c'est quelque chose que tu as gardé pour toi comme projet, parce que ton compagnon n'était pas forcément dedans. Aussi, ce qui s'est passé avec le père, du coup, ça m'intéresserait de savoir un peu comment ça s'est passé tout ça.
En fait, bon, Pascal, lui, il a une totale confiance en la vie, totale confiance en moi, totale confiance en l'enfant. Maintenant, c'est vrai que...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dans le contexte de la troisième grossesse qui est arrivée, j'étais en plein postpartum quand je suis retombée enceinte. Evie avait 8 mois quand j'ai appris que j'étais enceinte. C'était pas du tout un bébé prévu. Et je me suis dit, oh là là, non mais alors, j'ai pleuré pendant 24 heures. Je me suis dit, en plus avec tous les projets que j'avais, je vais jamais y arriver, quoi. Ça va être impossible. Et Pascal m'a dit, parce que bon, moi, j'ai pas encore parlé publiquement de tous les projets qu'on est en train de mettre sur pied, mais c'est quand même quelque chose d'assez costaud qui va demander beaucoup d'énergie. Et j'ai dit à Pascal, mais je vais jamais y arriver. Il m'a dit, mais si toi, t'arrives pas, personne n'y arrivera. J'ai toujours eu la chance voilà, il m'a fait toujours les plus beaux cadeaux, c'est de me dire que j'étais capable. Et donc, pendant cette grossesse-là, au fur et à mesure, ça a été complètement différent parce que j'ai quasiment fait aucun examen. Je me sentais tellement sereine, tellement bien, que déjà j'étais dans une autre dynamique, tu vois. Vraiment tellement informée. J'avais fait tellement de recherches que j'ai pu lâcher. Je dis toujours, la connaissance libère, mais c'est vraiment ça en fait, hein. T'as plus, absolument plus personne qui est au-dessus de toi au niveau des connaissances, parce que tu es vraiment à jour. Tu peux pas être plus à jour. Et donc, lui, il savait que ça allait être différent parce qu'il y avait quand même une petite de 17 mois qui était là pour le jour de la naissance. Et puis, moi, ce n'était pas encore très clair. Est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'elle n'est pas avec nous? Etc. Tu vois. Et finalement, ça a été... voilà, à la fin de ma grossesse, je me suis dit, bon, déjà, un, comme je le dis toujours, ça se fera comme ça doit se faire. Hein, il y a un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Mais surtout, j'ai envie qu'on me foute la paix. Donc, je me mettrai dans mon coin et je ferai ce que j'ai à faire. Ma sage-femme avait dit, voilà, le 16 mars, je ne serai pas là. Donc, j'ai une backup au cas où que j'avais jamais vue. Et j'avais dit à Pascal, bon, alors ça, c'est ton organisation. Je te laisse gérer tout ça. Moi, maintenant, en plus, j'étais complètement HS cérébralement parlant. J'ai vraiment senti une altération incroyable de mon cerveau. Ça a été... Ouf, et je me suis dit, oulala, ça va aller vite. parce que je sentais que je captais plus rien, je devenais complètement teubée. J'avais plié la voiture dans un parking souterrain alors que j'ai jamais eu d'accident. J'ai complètement fracassé l'aile droite de la voiture. Pascal, on a fait une vidéo sur YouTube en se foutant de moi, à juste titre, parce que je me voyais là comme, tu sais, comme les gens en fin de vie au volant qui comprennent plus rien. Là, je deviens dangereuse, quoi. Faut que j'arrête. Et donc, j'étais dans cet état-là. Mais Pascal, il a eu l'intelligence, même s'il avait probablement capté un peu ce qui se tramait en ligne de fond, de faire confiance aussi à tout ça. Donc voilà, le jour de l'accouchement, le matin, je me réveille avec des contractions quand même assez fortes. Je comprenais plus ce qu'on me disait au petit déjeuner. Donc là, j'ai su, là, ça doit être maintenant. Le terme avait été dépassé. Moi, j'ai des grossesses qui durent plutôt 40 semaines plus 5, plus 6 comme ça. Et puis voilà, je me suis isolée en fait. Et lui, en changeant la couche d'Evie, il est tombé sur elle. Et enfin, il a glissé avec son genou et il lui a fait une fracture du tibia, quoi. Alors, je te dis pas dans quel état était Pascal, parce que alors lui, en plus, il y a pas plus papa ours que lui. Il était, mais dans tous ses états, donc il s'est mis à pleurer. Il a senti que j'étais en train d'accoucher. Enfin, tu sais, c'est un moment où tu dis, putain. Non, mais là, c'est un truc c'est en train de partir. Et alors, là, j'ai dit, OK, reste avec Evie. Je pense que c'était vraiment un acte manqué. Hein. C'était vraiment un acte manqué pour lui, parce que forcément, sa fille, Evie, c'est son bébé. Donc, il est extrêmement protecteur avec elle. Et pour moi, c'est évident qu'il avait tellement peur de l'abandonner avec ce nouveau bébé. Enfin voilà, tu sais, il y a beaucoup de symboles. Moi, ça m'arrangeait d'une certaine façon, parce que comme ça, au moins, j'étais tranquille. Dans mon truc. Et puis, on ne savait pas à ce moment-là qu'elle avait une fracture, en fait. Hein. Il l'a gardée en portage pendant plusieurs heures. Et moi, en fait, je gérais mes contractions à un moment donné, avant qu'elle aille à sa sieste. Et je l'ai pris dans mes bras, Evie, pour la consoler. On ne savait pas ce qu'elle avait. Et au moment où je l'ai couchée dans son lit, c'est à partir de là que ça a vraiment démarré. L'accouchement. Et donc, lui est resté avec elle. Et moi, je te dis, ça a duré à peu près 1 heure et demie. Donc, j'avais un ballon, ces ballons de Pilates, là, dans ma chambre. Et c'est dommage, il n'a pas eu le temps d'enregistrer parce qu'il m'avait enregistré quand j'ai accouché d'Evie. Donc, j'ai toute la bande son de mes bruits, etc. Et ça, je trouve vraiment très intéressant de partager ça, tu vois, en ressources. Parce que souvent, les femmes, elles savent pas ce que ça fait. Et les partenaires aussi, je leur dis toujours, surtout, vraiment, c'est vraiment des bruits particuliers. Donc, malheureusement, les vidéos qu'on peut trouver sur Internet, c'est souvent un peu la fin de l'accouchement, tu vois, ou des fois même, ça fait un petit peu Alice au Pays des Merveilles. Il hein, faut quand même dire les choses telles que c'est. C'est pas souvent comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est très wild hein, quand j'accouche. C'est vraiment des sons, c'est animal. Et donc là, il n'a pas pu enregistrer. Donc c'est un peu dommage parce que ma mère qui est arrivée du coup dans la maison pour venir chercher Evie, histoire de la sortir pour que Pascal puisse un peu venir avec moi. Elle m'a dit, bon, moi je ne l'ai pas vue, j'étais en haut, et elle m'a dit, oulala, je suis rentrée, je t'entendais. Ça l'a énormément impressionnée. J'ai une mère qui a accouché en maternité à l'époque. Moi, je suis née en maternité, il n'y avait pas de péridurale à l'époque, c'était très peu courant. Elle m'a toujours dit, ben voilà, on ne se posait pas la question, on allait, on accouchait, puis voilà. Et le cerveau après efface, tu vois, tous ces trucs. Donc, elle n'a pas du tout. Eu l'habitude de ce genre de bruit, d'accouchement, etc. Elle trouve la démarche extraordinaire, mais en même temps, c'est vrai que quand tu te retrouves là avec ta fille, que tu entends crier comme ça l'a énormément impressionnée. Et après coup, elle me dit, oh là là, j'ai dit à Pascal, t'es sûr que tout va bien? T'es sûr que tout va bien? Tu vois, c'était un petit peu. Bon, moi, de toute façon, je captais plus rien, j'étais en haut et puis j'ai rien. Je me suis rendu compte de rien. Et donc, je suis partie prendre un bain rapide hein, dans ma baignoire. Et je suis restée quelques minutes comme ça. Je savais que, bon, déjà, c'était lancé, hein, parce que c'était ultra intense. Mais je savais surtout que quand je sortirais de l'eau, j'aurais le réflexe d'éjection du fœtus, parce qu'il est clairement lancé avec cette différence de température chaud-froid, hein, tu vois. C'est tout des trucs, quand tu sais exactement la mécanique de la naissance, si elle n'est pas perturbée, quasiment, tu as une boule de cristal sur ce qui se passe, tu vois. Et je me revois encore dans ma baignoire en train de me dire, bon. Ok, dès que tu vas sortir, prends vite ton linge pour t'essuyer parce que ça va commencer à pousser, tu vois. Ça n'a pas manqué. Donc, je me suis motivée là. Et donc, je suis sortie de la baignoire. Et voilà, donc je me suis retrouvée assise sur les toilettes. C'était tellement agréable, en train de m'accrocher à la poignée de la porte. Et j'ai senti la tête qui descendait, qui arrivait. Donc, en touchant avec mes doigts, j'ai senti que la tête était là. Je sentais la poche des os qui a lâché là, à ce moment-là. Et donc, j'ai ouvert la porte en étant toujours assis sur les toilettes parce que dans ma salle de bain, c'est vraiment collé, tu vois. Et donc, j'ouvre un peu la porte et je dis à Pascal, je l'appelle Pascal, je dis, il arrive. Et donc, Pascal est arrivé dans la salle de bain qui est minuscule, en fait. Il n'y a pas plus petit que salle de bain que moi, en fait. Il y a à peine l'espace pour être là entre le mur. Et c'est parfait, tu vois, c'est vraiment tout petit. Et lui, il avait préparé la piscine en bas parce que moi, j'avais quand même, je m'étais dit, ah bah, comme ça, tu vois, je serais bien dans l'eau, c'était très agréable. Alors, que dalle. Il m'avait fait une playlist géniale. Que dalle, des bougies, que dalle. C'était en pleine journée. J'étais sûre que j'allais accoucher la nuit. Que dalle aussi. Et finalement, il avait appelé la sage-femme, backup de ma sage-femme, qui était arrivée là. Et donc, moi, j'étais à quatre pattes, Pascal devant moi, en train de me tenir à son cou, parce que là, j'avais la poussée réflexe qui a commencé. Et elle me dit, elle déboule comme ça dans la pièce, elle me dit, tout va bien, presque en panique. Et en fait, je l'ai dégagée de la salle de bain. Alors, je me souviens plus très bien ce que je lui ai dit, parce que Pascal s'est beaucoup moqué de moi. Il m'a dit, t'avais la voix de Dark Vador. Et c'est vrai que j'étais très à ce moment-là très animale en train de j'avais une voix très très puissante, très grave et je crois que je lui dis dehors ou un truc je sais plus exactement ce que je lui ai dit mais bon, je l'ai sortie. Et donc elle s'est retrouvée derrière moi. Et là j'ai senti la tête passer, j'ai demandé à Pascal, j'ai dit est-ce que tu vois la tête? Il m'a dit oui, je sens la tête et en deux poussées. Et ah oui, je me souviens que la sage-femme a voulu toucher quand Edison avait sorti sa tête. Je me souviens qu'elle a voulu, je pense qu'il avait, il doit avoir une circulaire, elle a voulu le toucher. Et je lui ai dit, touche pas bébé. Je lui ai juste dit ça. Et en fait, du coup, elle a vraiment, c'est à partir de là qu'elle a compris, parce qu'on s'était jamais vu. Et
Ouais.
donc, elle a dû, tu sais, quand tu disais tout à l'heure, ça serait chouette d'avoir une nouvelle catégorie de sage-femme. Etc. Je me mets quand même un petit peu aussi à la place des soignants. Tu vois, moi qui accompagne vraiment beaucoup de personnes maintenant, je me rends compte que, encore une fois, quand arrive le jour J, il y en a beaucoup qui partent en panique. Hein. Ceux que j'ai connus quand j'écoute leur histoire avant, pour leurs précédentes expériences, souvent, ils se remettent quand même auprès du soignant en disant, maman, on fait quoi? Et donc, ça dépend aussi de la posture des parents. Si les parents prennent l'espace, les sages-femmes qui sont justement de bonnes gardiennes, comme on dit, elles restent à leur place, tu vois. Mais à l'inverse, en se mettant aussi un petit peu à leur place, c'est pas toujours simple de savoir qu'est-ce que les parents attendent réellement, tu vois. Quand tu as des parents qui sont là, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, tu vois, tu peux pas rester à tricoter dans le coin de la pièce. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, préparez bien ce moment-là, soyez clair avec vos attentes, tu vois. Comme ça, au moins, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Tu vois, il n'y a pas de bien ou de mal, juste
Mais
être clair.
en fait, c'est ça, je pense qu'il y a un manquement pendant la grossesse. Et tu vois, j'en parlais avec une étudiante sage-femme il y a quelques mois maintenant, un épisode qui date un peu, qui remonte à octobre, je pense, ou septembre, enfin, bon, bref. Et elle disait ça, en fait, les femmes, les personnes enceintes ne sont pas éduquées à l'accouchement, à ce qui va se passer. Et oui, au fait de prendre les responsabilités, au fait de, ben oui, choper le bébé, au fait de, enfin, tu vois, de comment ça va vraiment se passer. La préparation à la naissance, c'est ça. C'est quand tu as des contractions toutes les X minutes, depuis X heures, tu dois aller à la maternité, la péridurale, faut être dans telle position. Ça ne prépare pas à un accouchement. Et donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'il manque quelque chose pendant la grossesse pour éduquer les personnes à ce qui va se passer et comment elles veulent que ça se passe. Et effectivement, si les personnes enceintes n'ont pas envie de prendre le lead et ont envie de se faire accompagner ou que la sage-femme reste la personne d'autorité, bon bah il faut que ce soit dit clairement, peut-être, et enfin voilà. Et aussi pour que les sages-femmes puissent savoir où se positionner.
Exactement. Bah, c'est ça, c'est vraiment une discussion. C'est comme un couple, hein. Il faut juste mettre les cartes sur les tables, la table, et puis être clair
Ce que
avec ce qu'on veut
j'attends,
vivre.
ouais. Ouais,
Voilà,
c'est
c'est
clair.
ça. Et puis se dire toujours qu'à un moment donné, les composantes peuvent changer, évoluer, puis c'est OK aussi comme ça. À un moment donné, faut pas non plus être trop borné. Et c'est toujours ça, savoir à partir de quand je suis dans la physiologie, à partir de quand j'arrive dans quelque chose qui n'est plus de la physiologie, et à partir de quand c'est de l'acharnement débile pour rien, et à partir de quand. Là, par contre, c'est juste une question de mental, parce que pour moi, vraiment, l'accouchement, c'est un défi mental, tu vois. La femme, elle n'a rien à faire techniquement, mais c'est ça qui est difficile.
Oh.
C'est vraiment de lâcher, lâcher,
Ouais.
lâcher, lâcher, faire confiance. Et tout ça, de nouveau, on est tellement conditionné à faire, à contrôler et à voir toutes ces images de pathologie, d'urgence,
Bien sûr.
etc., tu vois, de stress finalement. Et puis ça aussi, il y a des femmes encore le dernier mois de grossesse, elles passent leur temps à stresser, elles sont pas dans une complexion hormonale idéale, tu vois.
Non.
Elles sont vraiment, je reprends les mots de Suzanne Colson, tu vois, avec qui je me suis formée en biological nurturing, tu sais, pour l'allaitement. Et en fait, tu vois, elle parlait de la complexion hormonale, qui est un mot qui n'existe pas, mais elle a francisé un concept anglais. Et c'est vraiment ça. C'est pareil quand tu allaites. C'est-à-dire que tu peux pas allaiter de façon fluide si tu es en stress, si tu es tout le temps en train de te dire comment je mets mon bébé? Est-ce qu'il a une bonne prise? Est-ce que l'angle est juste? Est-ce que, tu vois? Et c'est la même chose. C'est toujours le processus involontaire qu'il ne faut pas perturber. Et tout ça, alors, on est hyper doué dans sa tête pour le perturber. Et donc, pour revenir, moi, avec cette sage-femme qui arrive, je pense qu'elle, elle était pas, elle s'est pas rendue compte que tout ce que je voulais, c'était qu'on me foute la paix, en fait, tu vois. C'est comme, j'avais dit la même chose à Pascal quand je l'ai rencontré, parce que moi, je voulais plus d'hommes dans ma vie. Parce qu'il m'a demandé, au tout début, mon rapport avec les enfants. Alors, moi, déjà, j'avais été mariée il y a longtemps. Je suis pas restée mariée longtemps. Et du coup, j'avais un mari qui pouvait pas avoir d'enfants. Donc j'avais fait le deuil d'avoir des enfants. Alors je suis passée de ça, où vraiment dans ma vie, je m'étais dit, ben voilà, je n'aurai pas d'enfants. Je me suis beaucoup questionnée pendant des années sur le rôle et à quoi ça sert, au-delà de l'instinct, tu vois. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, etc. Quand j'ai eu ma première fille, eh bien là, à ce moment-là, j'ai eu. Ça a été le baby clash, une relation basée sur, enfin, comme beaucoup, hein, finalement, sur pas les vraies questions. Et je me suis débarrassée de cette relation toxique tant bien que mal. Ça a été très compliqué. Quand tu as un enfant, forcément, tu fais pas la même chose. Et alors, moi, j'avais dit plus jamais d'homme dans ma vie, plus jamais, et encore moins vivre avec quelqu'un, et encore moins avoir des enfants, parce que ça, c'est trop, ça m'a trop déchiré de perdre d'une certaine façon ma fille que j'avais tout le temps. Enfin, et même encore maintenant, il y a des moments, pour moi, c'est le plus gros déchirement qu'une femme puisse vivre, c'est d'être coupée de son enfant. J'avais dit à Pascal, tu vois, pour moi, aimer quelqu'un, c'est lui foutre une paix royale. C'est ça, aimer quelqu'un. C'est vraiment lui foutre la paix. Et pas pareil pour moi avec le rapport avec une sage-femme. C'est foutez-moi la paix, ça veut dire que vous me laissez ma liberté et vous me faites confiance. Et donc, Edison est né comme ça, en trois poussées. Il est arrivé sur le tapis de bain, il a poussé ses cris, et puis c'était génial, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Et je me suis retrouvée, même en postpartum. Alors, déjà, j'étais en état méditatif pendant à peu près une semaine. Je suis restée complètement en train de planer là avec mon bébé. J'avais prévu vraiment un mois d'or bien organisé, tu vois. Donc, je me suis autorisée aussi à être dans ce monde flottant entre deux plans de réalité. Et je sentais que la maison vivait. Alors, évidemment, Evie, du coup, avec son plâtre, la pauvre.
Ah,
Mais j'ai
j'attends.
lâché aussi. J'ai lâché aussi. Ça a été aussi ça, d'apprendre aussi à un moment donné. On a tous un contrat d'âme en arrivant ici. Tout est une possibilité d'évolution, j'accepte aussi, tu vois. Ça a été aussi une initiation par rapport à ça, parce que je me suis dit, ah, c'est con quand même, j'aurais bien aimé vivre en postpartum avec Pascal, tous ensemble avec le petit. Ben non, ça n'a pas été comme ça. J'étais seule avec mon bébé pendant que ben, la pauvre petite, avec son plâtre, ben, elle était avec son père, parce qu'il y a fallait. Franchement, c'était chaud, quoi.
Ah, j'imagine.
17 mois avec un plâtre pendant un mois. Et en fait, je me suis retrouvée seule. À être dans ce flow avec Edison. J'ai vraiment eu le temps de méditer. J'ai énormément lu. J'étais dans ma chambre avec mon bébé. Et j'en garde un souvenir vraiment particulier d'une énergie hors espace-temps. J'étais vraiment dans le temps-espace. Hein, parce que je parle aussi beaucoup du temps-espace dans mon accompagnement. J'étais vraiment là, quoi. J'étais vraiment dans l'instant-là.
Et est-ce qu'au final, il avait une circulaire de cordon autour du cou ou pas?
Écoute, je me souviens même pas. Moi, je l'ai pris.
Ok.
Ouais, je me
Et le
souviens même pas.
placenta?
Alors, le placenta, il est sorti à peu près 1 heure après.
Ok.
Moi, je me suis mis tranquillement dans mon lit. J'ai pas mal de photos que j'avais que j'ai mis dans mes accompagnements. Et même des moments que j'avais zappés, en fait, que Pascal a filmé, tu vois. Je suis plus du tout là. J'étais avec mon bébé. Donc, il a tété quasiment non-stop. Donc, entre-temps, ma sage-femme est arrivée. Elle est revenue. Alors, elle a quand même voulu revenir pour voir Edison. Bon, elle me connaît depuis Evie, mais elle avait été là pour l'enfantement de ma sœur il y a 15 ans. Donc, en fait, elle connaît un petit peu les bébés de la famille Cruzy.
OK.
Et elle avait voulu revenir à ce moment-là. Et donc, quand elle est arrivée, je lui avais dit, est-ce que tu peux prendre dans ta voiture? Elle avait une chaise, tu sais, ces anciennes chaises où tu te mets dessus. C'est un peu comme, finalement, un peu comme des toilettes, hein. Mais là, j'avais pas envie de me
Ah
verticaliser, de remarcher. J'avais dit, tu peux prendre ta chaise. J'avais délivré mon placenta comme ça pour Evie. J'avais trouvé très, très facile comme ça. Et donc, elle a été chercher son petit tabouret. Je me suis levée, j'avais mon bébé dans les bras. Et j'avais demandé à Pascal d'appeler tout de suite une doula parce que j'ai voulu consommer mon placenta. Alors ça, par contre, c'est vraiment quelque chose que j'encourage toutes les femmes à faire. Alors, ça m'a complètement changé aussi mon postpartum. Et donc, voilà, ça a été hyper fluide et hyper simple.
trop bien, cool. Et oui, ta sage-femme, elle t'a pas mis la pression pour que ton placenta sorte. Je sais pas
Alors,
quels sont
elle non,
les protocoles en Suisse.
mais par contre, sa backup, c'était un enfer. Mais parce qu'elle était en stress avec ça, tu vois. Énergétiquement, avec ma posture, j'ai réussi à la repousser quand même. Et j'avais dit quelques semaines après à ma sage-femme, écoute, je voulais quand même te dire, puisque tu envisages de travailler en binôme avec elle, je te le dis moi pour votre expérience. Ne faites pas ça, tu vois. Ne faites plus ça. Bon, ma sage-femme était top pour ça, tu vois. Mais ça backup pas du tout. Je dis, si moi j'ai réussi à être tranquille, c'est parce que je suis hyper préparée, tu vois. Je suis
Ouais.
blindée, il y a des techniques, je sais faire. Mais c'est ça, tu fais pas ça avec une mère tu vois, qui fait son premier enfantement comme ça. Parce que tu gâches ça, tu vois, tu gâches cette souveraineté-là à ce moment-là.
Bien sûr.
C'est inutile de faire ça. C'est vraiment inutile. Encore une fois, je ne lui en veux pas parce que je pense qu'elle a. Tu sais, les soignants, on les voit souvent comme des personnes qui ont fini leur évolution, etc. Mais en fait, ils ont plein de névroses, ils ont plein de stress, ils ont plein de trucs. Et eux, personne les coach. Hein. Donc, il y a un moment donné, il faudra aussi dire les choses telles qu'elles sont. Le jour où les accompagnants auront aussi appris, avec aussi des formations et des suivis pour eux, des accompagnements pour eux, à gérer leur petit caca émotionnel, ça se passera mieux aussi en salle de naissance, hein.
Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Et je pense aussi que on minimise vachement l'impact que ça peut avoir n'importe quelle chose en fait pendant l'accouchement. Enfin, tu vois, donc moi pour ma deuxième, tout était parfait. Enfin, vraiment, il n'y aurait rien à refaire. Mais mon mec, et c'est un truc bête, hein, mais il y a un truc qui était nul pendant l'accouchement, et c'est rien, mais quand même. C'est que ma fille est née, on ne savait pas ce que c'était, parce que moi, je ne veux pas savoir le sexe de mes bébés quand ils sont dans mon ventre, je veux le découvrir. Et donc, mon bébé sort et mon mec me dit, oh, c'est une fille. Et je pense que j'aurais pu le gifler. En fait, c'est pas à
Ah
toi,
ouais.
c'est pas à toi. Toi, tu le découvres pour toi, c'est très bien, mais tu n'as pas à me dire le sexe de mon bébé. Enfin, et on s'en était même pas parlé, enfin, il ne savait pas qu'il fallait pas me le dire. Mais c'est vrai que. Et ce petit truc-là, ben, tu vois, aujourd'hui, donc 2 ans et demi après, et je pense que dans 50 ans, je continuerai de dire Victor, hein, la moindre petite chose interfère, en fait, et foutons la paix aux personnes qui enfantent, et on n'a pas besoin de que vous nous disiez des trucs ou que vous. Enfin, laissez le truc se dérouler et
En fait, je pense que
tout a un
c'est vraiment les
impact.
gens doivent être clairs. Tu vois, c'est vraiment comme la relation de couple au quotidien. Il y a un moment donné, tout fonctionne, mais il faut juste dire ce qu'on veut. Personne signe un contrat sans lire le contrat.
Mais parfois,
C'est
tu sais
pareil,
pas ce que
tu vois.
tu veux.
Ah bah si, bah ça, c'est justement c'est pour ça qu'il faut être accompagné.
Alors,
C'est
mais.
sûr. Bah, c'est d'où l'importance d'être accompagné, bien sûr. Parce que, tu sais, on est quand même dressé comme des chiots à l'école. Hein. Depuis petit, on doit
Ah,
lever
bien
la main pour
sûr.
faire pipi. Donc, c'est sûr que de sortir de tout ça, et puis après, ça continue avec le travail, etc. Hein. Et donc, nécessaire d'être accompagné parce que, tu vois, on ne se pose pas les bonnes questions. On n'a pas appris ça. Après, ça va tout seul une fois que tu as compris la mécanique et que, justement, que tu as fait ce travail-là avec quelqu'un qui est déjà là où tu veux aller. Parce que c'est toujours ça dans la vie. Hein? Trouver les personnes qui sont là où tu veux aller.
Ouais.
Mais il faut pour ça, effectivement, pour gagner du temps, surtout qu'une grossesse, tu ne peux pas repousser l'heure de naissance. 9 mois, ça passe très vite. D'où l'importance, je dis toujours, de s'entourer des bonnes personnes. Mais par contre, ça s'organise, tu vois. Ce que tu disais par rapport à ta fille quand elle est sortie, eh bien, ça fait partie des discussions que le couple doit avoir. Moi, tu vois, par exemple, j'ai des feuilles d'exercice que je vais faire. Voilà, bah, typiquement, genre des discussions. On met tout sur la table, tu vois. Même les tabous, parce qu'il y en a plein. Il y a des femmes qui n'osent pas pousser, elles ont peur de faire caca partout. Bah oui, mais bah, à un moment donné, ça va. Hein.
Le caca, il va sortir.
Oui, voilà, à un moment donné, c'est bon. Tu vois, non, mais c'est ça, je dis toujours. Alors, moi, je désacralise tous les trucs. En plus, Pascal est là, puis les gens, ils se rendent compte qu'en fait, ouais, c'est complètement débile.
Mais oui.
Là, on est en train d'accueillir un être humain, tu vois. Mais il faut juste le dire, puis après c'est fini, puis c'est bon, on passe à autre chose. Ouais. C'est juste que des trucs, ça peut prendre des proportions énormes, tu vois. Alors
Bien
qu'en
sûr.
Fait, c'est juste rien, il faut juste en parler et c'est bon, c'est fait après.
Ouais, c'est clair. Emma, on arrive à la fin de notre conversation. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais eu envie qu'on aborde avant qu'on se quitte?
Oui, moi, alors le problème, c'est qu'on va devoir rester sur un séminaire de 48 heures, Roxane.
On a
si
encore
on
plein de choses à
parlait un
dire, je
petit peu
sais.
de notre programmation en tant qu'enfant. Ouais, bah, en fait, tu vois, c'est ça. C'est comme je disais, l'accouchement, c'est le début. Donc, je dis toujours aux gens, mettez en commentaire si vous voulez la suite des épisodes, parce que finalement, le but, c'est pas qu'on s'écoute parler, hein, c'est que ça profite aux autres. Donc, la question, ça serait surtout, finalement, comment serait notre vie si nous n'avions pas peur? Ouais, c'est ça la question, moi, que j'aime poser aux gens. Je me la pose aussi, beaucoup. Mais. J'ai envie de prendre toujours la fusée pour voir les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de recul, beaucoup de hauteur. Donc, il n'y en aura pas une, malheureusement, mais ça serait encore des discussions comme ça pour relier les points.
Ça marche. Merci beaucoup, Emma.
Merci à toi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.